Slate Podcast.
Bonjour, c'est encore Kate Evan de Audible. Audible, l'appli des livres audio et des podcasts, est ravie de soutenir à nouveau Transfert, le podcast qui nous tient toujours en haleine. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode? Bonne écoute!
Depuis 2 ans et demi que Transfert existe, nous recevons souvent des messages de vous qui nous dites que vous nous écoutez en famille, avec des copains, dans votre baignoire, que Transfert accompagne votre quotidien, ce qui nous fait un plaisir fou. Quand on a découvert l'histoire d'aujourd'hui, on a pensé que c'était une sorte d'hommage à cette intégration dans votre quotidien. Et on s'est demandé à quel point l'amour des histoires peut donner envie d'en créer une, d'en rêver une, le talent de faire vivre le temps d'une nuit des personnages, des décors, et de les planter dans la vraie vie. Voici donc aujourd'hui dans Transfert, comme un petit conte de Noël, signé Iris Ouedraogo.
Donc je pars à l'île de Ré ce week-end-là parce que c'est le week-end de la Toussaint et que je suis originaire de La Rochelle et c'est donc c'est juste à côté. J'ai l'habitude d'y passer mes vacances depuis que je suis toute petite et c'est un peu d'ailleurs un endroit où je vais me réfugier, me reposer et je me dis comme j'adore ce lieu que je connais bien, je peux y aller toute seule et je vais pas m'ennuyer ni être triste. Et quand je finis le week-end, finalement, je suis quand même assez contente de rentrer, de prendre le train et de parce que j'ai un peu de retrouver la vie parisienne parce que j'ai un peu le cœur pas très en forme quoi. Et je monte dans le train franchement pas très gaie et j'écoute de la musique. Je suis toute seule et la place en face de moi est libre. Et ça reste comme ça jusqu'à la gare de Niort, où j'écoute en boucle la même chanson, un peu triste. Et à la gare de Niort, il y a un garçon qui arrive, donc la trentaine. Son apparence physique ne suscite pas grand-chose chez moi. Il me paraît assez banal. Et il me dit l'habiller un peu à la cool. Je vois juste qu'il a autour du cou l'écharpe du Stade Rochelet. Parce que le Stade Rochelet sont devenus très, très forts à La Rochelle, alors tout le monde les adore. Donc il a une écharpe de rugby autour du cou. Je vois qu'il me parle, donc j'enlève mes écouteurs. Il me demande s'il peut s'asseoir. Et donc, je lui dis oui, bien sûr. Et il me dit, j'ai pas de billet. Je dis, OK. Et je m'apprête à remettre mon écouteur. Et là, tout de suite, en fait, il profite des 2 secondes qui séparent le moment où je les ai enlevés, le moment où je vais les remettre, pour me demander ce que j'écoute. Et en fait, il me sourit. Et son sourire m'amuse. Enfin, je me dis, il a l'air marrant, en fait. Et donc, je lui réponds Wonderful Life de Cathy Mellua. Il me dit qu'il connaît pas. Et il me dit, moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Et je dis, moi aussi, j'adore. Et il me dit, moi, j'écoute souvent Affaires Sensibles. Je connais aussi, donc je lui dis que moi aussi, j'adore Affaires Sensibles de France Inter. Et puis, je lui dis, mais moi, j'ai surtout découvert Transfert de Slate et j'adore. Il me dit, je connais pas. Je lui dis, c'est des gens qui racontent leur vie ou des moments de leur vie. Et c'est très intime. J'aime beaucoup. C'est un peu comme quand ta maman te racontait une histoire avant de t'endormir le soir. Quand on commence à parler de transfert, il me demande tout de suite. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'il a cette intuition. Il me demande tout de suite si j'ai déjà écrit à Transfert et si pour raconter une histoire. Et donc je lui dis que oui et que j'ai écrit pour raconter une relation et une rupture qui a été ma dernière relation et que j'ai reçu une réponse négative, que j'avais pas été sélectionnée parce qu'apparemment ça correspondait pas au format. Et en fait il me dit mais c'est quoi cette rupture, c'est quoi cette relation et je lui dis c'est une rupture quoi, enfin comme il y en a tant. Mais en fait, il veut absolument que je rentre dans les détails. Et ce qui me surprend un peu, effectivement, parce que je me dis, c'est un peu bizarre, je le connais depuis à peu près 3 minutes 30 à ce moment-là, et de rentrer dans une telle intimité. Puis potentiellement, on est déjà un peu dans un rapport de séduction. Donc, c'est bizarre de commencer la séduction par raconter l'échec de ta relation passée. Donc, je trouve ça bizarre, mais bon, j'ai envie de lui plaire. Et puis, il me dit... Et puis, moi, je te raconterai ma rupture, parce que c'est sûr que si je la racontais, il me sélectionnerait. Alors, je me dis, bon, bah, en même temps, j'ai envie de savoir ce qu'il va me dire. Et donc, je raconte ma relation passée, qui était une relation très, très compliquée avec quelqu'un dont j'étais très amoureuse, mais qui est une relation qui est clairement pas saine, avec quelqu'un qui n'était clairement pas sain. Et puis, je lui dis que j'ai fini par partir quasiment un an avant, puisque c'était au mois de décembre, que depuis, je suis très heureuse et que j'ai réussi à me libérer de cette relation qui était hyper toxique. Assez vite, il enchaîne sur la sienne. Et donc, il me raconte qu'il a demandé son ex-femme en mariage. Il a fait l'annonce à ses parents, que toute la famille était très heureuse. Et puis, que quelques mois plus tard, pour des circonstances que je ne comprends pas très bien, la situation se tend. Il revient d'un week-end entre amis. Et elle, visiblement, elle en a vraiment ras-le-bol de lui, quoi. Et surtout, les parents de la fille appellent ses parents. Et une première fois, sa mère qui lui dit bah, « c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, Antoine ?» Voilà. Et une deuxième fois, son père qui lui dit « écoute, ils disent vraiment du mal de toi, t'as certainement des défauts, mais voilà, t'es pas quelqu'un de mauvais, donc il faut que tu t'en ailles, en fait. » Et donc, il prend son sac à 3h du matin, il quitte cette fille au milieu de la nuit, et voilà. Et donc, le mariage qui était planifié quelques mois plus tard est annulé. Il me raconte ça, et moi, il commence déjà un petit peu à me plaire. Alors, je lui demande s'il est triste. Et il me dit, non, je ne suis pas triste. Donc, je suis assez contente. Et en même temps, je me dis, je pense que ce n'est pas vrai, en fait. Je ne le crois pas parce que je pense que quand on doit se marier avec quelqu'un et que le mariage est annulé par la personne, je pense que, voilà, je pense qu'on est, en fait, on est quand même triste et qu'on peut ne pas vouloir s'avouer qu'on est triste. Mais je sens déjà que ça va être le terreau de notre échec à nous, quelque part, en fait. Et je me dis, oui, il veut certainement pas s'admettre que... parce que c'est dur, parce qu'il est orgueilleux, parce que voilà. Mais je suis persuadée qu'au fond de lui, il y a quelque chose qui s'est brisé, parce qu'un an avant, il voulait que ça soit sa femme, quoi. Et je me dis, c'est pas terrible, en fait. Ça part pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, je suis déjà un peu folle. Et oui, mais je sais, en fait. Mais en fait, pour être très honnête, je pense qu'à partir du moment où la première phrase, où il me regarde en souriant et il me dit « qu'est-ce que vous écoutez ?» et qu'il me sourit, je sais, en fait. J'ai une certitude. En fait, j'ai un énorme coup de foudre, quoi. Parce que c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai un coup de foudre et que je le vois. Autant je n'ai pas fait attention à lui physiquement quand il me demande s'il peut s'asseoir, autant là, je vois ses yeux, son air malicieux, son sourire. Il a un côté très enfantin, très, très espiègle. Et je tombe un peu amoureuse, en fait. Et voilà. Et du coup, oui, quand il me dit ça, je suis la question, quand je lui dis, bon, est-ce que t'es triste? C'est clairement pas du tout innocent, en fait. Et puis après, le temps passe. Et puis, je lui demande, je lui dis, mais t'es montée dans le train à la gare de New York? Et il me dit non, j'étais à La Rochelle, je suis montée à La Rochelle, mais bon, j'avais pris une place de quelqu'un donc, qui est arrivé, donc j'ai changé à la gare de New York. Et puis je lui dis, ah, mais c'est marrant, t'as quel âge? Il me dit, j'ai 33, moi j'ai 34 ans. Donc je lui dis, moi j'avais un an d'avance. Il me dit, moi j'en avais deux. Donc en fait, on se rend compte qu'on était dans la même année de classe, malgré notre différence d'âge d'un an, et que surtout, on continuait la conversation, qu'on a été au même collège, en fait. Pour autant, on ne se souvient pas du tout l'un de l'autre. Je pense parce qu'on n'était pas dans la même classe et également parce que lui il est en fait il a 2 ans d'avance, donc il me dit moi j'étais tout petit, gringalet et tout. Moi c'était l'inverse, en fait. J'ai sauté une classe, mais en plus j'avais une croissance précoce, donc j'étais plus grande que tout le monde, et voilà. Donc je pense que vraiment c'est pas du tout remarqué, en fait. Et en revanche, ma meilleure amie se souvient très bien de lui, mais moi, je sais pas qui c'est, quoi. Et puis comme il part très vite vivre à Tahiti, finalement on n'a pas l'occasion de se recroiser. En revanche, on a beaucoup de souvenirs. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas de souvenirs communs. On a on a les souvenirs dans les mêmes lieux, dans les mêmes endroits, avec les mêmes gens, en fait. Donc c'est évident qu'on s'est croisés, qu'on s'est côtoyés. Je lui ai peut-être déjà marché sur le pied. On s'est peut-être déjà dit bonjour, fait la bise. Mais voilà, on n'a aucun souvenir de l'un de l'autre, en fait. C'est un lien de plus Enfin, quand parce que voilà, comme je suis déjà sous le charme d'Antoine, tout ce qui peut rajouter à la magie de la rencontre, de ce moment, de la relation, de cet émerveillement, bah, évidemment, ça contribue à entretenir oui, le côté magique, en fait, de se dire, mais c'est trop marrant, on a été enfants au même endroit, on vient de la même ville, on se rencontre dans un train. Enfin, c'est un peu du storytelling, quoi. Ça marche, en fait. L'histoire et la magie sont là parce que tous les éléments sont là pour y contribuer. Et là, en fait, il l'a déjà répété une ou deux fois, j'espère qu'à Poitiers, personne ne va monter, parce que comme je n'ai pas de billet, voilà, je voudrais rester un peu à discuter avec toi. Et évidemment, il y a une fille qui monte à Poitiers. Et donc là, il me dit, bah, on est tout près, en plus du wagon-bar. Il me dit, on va au wagon-bar. Je dis, OK, donc on allait se prendre des verres au wagon-bar. Et puis, déjà, à ce stade-là, on est rentré dans une discussion qui est très intime. Bon, déjà, parce qu'on s'est raconté nos ruptures, des moments de nos vies qui sont quand même assez importants et douloureux. Et je ne sais pas pourquoi, ce week-end-là, donc dans l'amorosité qui avait été la mienne, j'avais repensé à un de mes amis qui était décédé 2 ans plus tôt. Et j'étais allée regarder sur Internet ce qui restait de lui, en fait, sur Google. Et j'avais découvert qu'il était Dicodor, ce qui, en fait, est un champion de dictée, quoi, à la pivot. Et donc, je raconte ça à Antoine, qui me dit « Ah, mais c'est formidable, moi aussi, j'ai fait des dictées avec Pivot, alors j'étais genre demi-finaliste, il est meilleur que moi parce qu'il était Dicodor, mais quand même, je suis très fort. » Et puis, il me dit comment t'écris Piédestal ?» Et là, je ne sais plus du tout écrire Piédestal, je réponds n'importe quoi. Et donc, il me dit « Non, mais c'est pas possible, parce que là, je ne peux pas rester, moi, si tu écris mal Piédestal et tout. » Et il fait le tour du wagon, barre, et même du wagon d'où on sort, il va voir la fille qui a pris sa place, il lui dit « Comment vous écrivez Piédestal ?» Elle répond bien. En fait, tout le monde répond bien à part moi, quoi. Donc, j'ai l'air un petit peu bête, mais bon, voilà, c'est pas grave. Il continue avec 2-3 mots. Puis bon, là, je me suis pas trompée, donc ça allait, quoi. Et donc, il a accepté de rester. Et voilà, et puis là, il commence à dire qu'il a envie que le train s'arrête parce que cette rencontre, elle est quand même dingue, qu'on est quand même très bien ensemble à parler. Et donc, magie du moment, 10 minutes plus tard, le train s'arrête effectivement en pleine voie. On a le message de la SNCF qui nous dit de ne pas descendre du train. Donc, on reste comme ça 20 minutes de plus à parler. Puis, assez vite, il me demande ce que je fais le soir même. Et bah, moi, je n'ai rien de prévu dans ce week-end, de toute façon, qui était assez genre, néant en termes amical. Et j'ai rien de prévu. Il me dit, bah, moi, j'ai une raclette, est-ce que tu veux venir avec moi? Et je lui dis, bah, oui. On arrive à la gare de Paris-Montparnasse et donc on a décidé de partir à la raclette ensemble. Et alors, du coup, on est tous les deux un peu comme un couple en fait, qui revient de week-end, parce qu'on revient de la même ville ensemble. Bon. Et il me dit qu'il a un scooter, donc on va à son scooter. Et puis il me dit que la raclette est à Pantin en fait. Donc moi, je regarde sur mon téléphone et je vois la gare Montparnasse-Pantin, et c'est 40 minutes, dont 20 minutes de périph, et moi, j'ai pas de casque en fait. Donc, je me dis que ce n'est pas hyper raisonnable. Et donc, je lui dis peut-être que le plus simple, c'est qu'on aille poser ton scooter et tes affaires chez toi. Ce n'est pas très loin. Donc, on est parti. Comme ça, moi, je n'avais pas de casque. Alors, c'était vraiment... j'avais l'impression d'être dans les années 70. Enfin, c'était n'importe quoi. Je veux dire, il était 20h, un dimanche soir. On avait bu un peu de vin. Je n'avais pas de casque. Les gens nous arrêtaient au carrefour en nous disant « Les scooters, mais c'est hyper dangereux. Vous allez perdre tous vos points. » Bon. Et donc, on est arrivé devant chez lui. Puis là, je dis, bah, je ne sais pas, je t'attends en bas ou tu veux que je monte. Il me dit, non, monte avec moi parce que ça vaut le détour. Donc, voilà, il me dit, c'est l'appartement de mon grand-père. Voilà, viens voir. Donc, on est sur l'île Saint-Louis. Et quand on arrive dans l'appartement, je me rends compte que... Alors déjà, l'appartement est très grand. Je ne sais pas, je fais 150 mètres carrés. Il est très, très haut de plafond, 3 mètres, un truc comme ça. Et il y a une terrasse qui donne sur la confluence de la Seine. Donc, la vue est absolument sublime. Il fait nuit. Je crois que c'est un lieu voilà, qui est totalement, en tout cas, que je n'avais jamais vu. C'est inédit et la vue est extraordinaire. Et puis, il y a un détail qui a son importance, qui n'est vraiment pas un détail dans l'appartement, c'est qu'il est totalement décoré comme dans les années 70, c'est-à-dire qu'il n'a pas bougé depuis les années 70. Donc, il y a de la moquette mousseuse violette au mur, cuisine en formica rouge, il y a des volets à l'intérieur bleu marine, la décoration est assez sombre, d'ailleurs, je pense un peu à ce moment-là à la maison de Gainsbourg. Il y a des rideaux en espèce de fil de plastique, là. Et puis, visiblement, c'est un appartement où Antoine vit avec son frère. Quand Antoine, il loue normalement son appartement à Airbnb au-dessus. Donc, quand il loue son appartement à Airbnb, il vient là. Et il vit avec son frère qui est plus jeune que lui. Donc, c'est vraiment l'appartement de célibataire. Quoi. Il y a des matelas. Bon, on sent que c'est l'ordre. C'est pas vraiment leur truc, quoi. Et puis, le grand-père était kiné. Donc, il y a encore tous les trucs de kiné. Donc, il y a la barre de traction. Il y a les trucs pour faire la rééducation de cheville. Tout ça en bois. Voilà, donc vraiment le matériel de l'époque. Donc moi, j'essaie de faire un peu de traction, je m'entraîne la cheville, enfin voilà, on se marre, quoi. Et je suis dans ce lieu et je me dis, mais là, je suis vraiment complètement hors du temps. C'est-à-dire que j'ai changé d'époque, c'est... voilà. Et donc, on passe quelques minutes ici et voilà, moi, comme j'aime bien le cinéma, je lui dis, mais tu sais, il faut absolument essayer de tourner un film dans cet appartement avant qu'il soit redécoré, avant que, voilà, qu'il soit racheté puis que les gens le rénovent, quoi. Et je vois très bien, enfin quelque part, le film qui peut se tourner, quoi. Et je me dis, enfin, ce lieu est complètement magique. Finalement, on s'en va. On arrive. Donc là, on est encore dans un nouveau changement de décor. Moi, j'arrive chez des gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam, à qui il a raconté qu'il emmenait une fille qu'il avait rencontrée dans le train, je crois. Donc les mecs sont assez sympas. Voilà, ils m'accueillent. Alors, je ne sais pas s'ils sont surpris ou s'il a l'habitude de faire ça, en fait. Moi, je ne me pose pas vraiment de questions. Eux, ils font en sorte de ne pas s'en poser. Voilà, ils sont partis en Russie, donc ils parlent beaucoup de ce séjour. Il y a d'ailleurs une jeune femme russe qui est là, donc ça parle anglais, du séjour en Russie. Bon, finalement, moi, je suis une donnée un peu étrange de ce dîner comme une autre, quoi, et qui se passe très bien. Et Antoine, il me regarde tout le temps, il me dit « mais c'est extraordinaire, c'est incroyable, voilà ». Et moi, je trouve ça évidemment extraordinaire, incroyable. Et après, donc, ils veulent tous aller prendre un verre, retourner dans le Marais. Donc voilà, on a fait beaucoup de distance ce soir-là, parce qu'ils ont un bar d'habitués auquel ils vont tout le temps, qui s'appelle le Cactus. Et donc, nous voilà partis à minuit de dimanche soir, toujours avec mes valises, du coup, je me balade avec. Et évidemment, il n'y a que des habitués du dimanche soir, voilà, des gens qui passent un peu leur vie au comptoir, d'ailleurs. Et parmi ces gens, il y a un mec qui, visiblement, connaît bien Antoine et qui aime beaucoup Antoine et que Antoine aime beaucoup, qui fait du théâtre. Qui fait du théâtre, voilà, je ne sais pas vraiment dans quelle proportion, mais voilà. Puis là, cette voix très grave, et donc je commence à lui raconter un peu ma vie, que je veux faire de la production de théâtre, donc on parle de ça au bar... Puis il y a toute cette population un petit peu étrange du monde de la nuit, voilà. Et en même temps, c'est hyper bon enfant, voilà, c'est vraiment un petit bar sympa, quoi, où tout le monde raconte sa vie. Bon, puis finalement, à un moment, je me retourne et Antoine m'embrasse. C'est aussi un peu comme si c'était la confirmation de... Oui, on est vraiment dans un début d'histoire amoureuse. En fait, c'est pas le baiser en soi est super, mais c'est surtout ça, c'est ce début, finalement, ce début d'histoire. Et puis, il y a le côté très cinématographique de toute cette nuit, ce sentiment de féerie, de magie, truc très enfantin où on est hyper joyeux. Enfin, on se regarde beaucoup, en fait. Lui, il me regarde beaucoup. De toute façon, il est assez demandeur, finalement, dans cette... et presque, je dirais, c'est lui qui organise l'événement. Enfin, je veux dire, c'est lui qui vient me chercher dans le train, c'est lui qui m'amène au wagon-bar, c'est lui qui m'amène à sa raclette, c'est lui qui... et c'est lui à ce moment-là qui me regarde et puis voilà, et qui dit tout le temps c'est extraordinaire, c'est et puis en fait chaque élément surtout rajoute un côté très hors du temps. En fait, c'est, on arrive dans cet appartement, c'est complètement, voilà, c'est hors du temps, c'est 70s, le lieu est magique, on s'en va, on est dans ce taxi, on part à Pantin, donc on traverse à l'autre bout de Paris. Donc, c'est comme si, en fait, on quittait à chaque fois une époque pour en retrouver une autre, un lieu pour en retrouver un autre. On repart de Pantin pour revenir dans le Marais, dans ce bar qui est finalement aussi un peu hors du temps, avec ces mecs qui sont là, on ne sait pas trop ce qu'ils y font. Et voilà, et en fait, on est très hors réalité. Et c'est l'impression, je pense qu'elle s'accroît avec la nuit qui avance. Et en fait, je vois la nuit qui va se finir et j'ai pas envie que ça s'arrête, en fait. Et je sais que ça va s'arrêter, je sais qu'un moment va se réveiller et que, voilà, ce moment sera fini. Et j'ai pas envie, en fait. J'ai déjà le sentiment que ça ne se reproduira pas ou très peu. Et puis, finalement, le Cactus a fermé à 2h du matin. Donc, nous voilà repartis avec mes bagages dans les rues de Paris. Et on rejoint donc l'île Saint-Louis à partir du Marais, et on traverse les rues du Marais. Et on arrive chez lui, dans l'appartement du grand-père. Il y a le petit frère qui dort, mais qu'on ne voit pas. Et puis, on se met au lit. Et puis, on n'a pas vraiment envie que la nuit se finisse. Donc, on écoute des chansons. On adore écouter des chansons françaises. Et donc, il met ses deux chansons préférées. La première, Le petit pain au chocolat de Joe Dassin. Et la deuxième, qui est devenue assez importante à mes yeux, parce que je trouve qu'elle résume beaucoup de sa personnalité et de ce qui s'est passé à ce moment-là, qui est la chanson Les marionnettes de Christophe, qui dit moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Donc, c'est vraiment cette idée d'avoir réussi à en fait, créer un moment de bonheur à partir de rien. Donc voilà, et en fait on dort dans les bras l'un de l'autre, on est vraiment serrés l'un contre l'autre, mais on dort de manière totalement platonique, quoi, un peu comme deux adolescents ou deux âmes sœurs justement. Et on se réveille le matin, on est lundi matin, il est 9h15, pas spécialement en avance sur l'emploi du temps. Je suis quand même hyper fatiguée dans un appartement que je ne connais pas, où il y a de la moquette violette. Et il y a en plus le mec qui vient réparer la chaudière qui débarque. Donc là, on est vraiment dans une scène. Voilà. Je pense que le type se dit, je ne sais pas où il est. Enfin, lui, il se dit, voilà, c'est qui ces jeunes qui vivent dans cet appartement immense à la déco improbable. Moi, de toute façon, moi, je suis ailleurs complètement. Voilà, j'ai pris ma douche, tout ça, et je m'apprête à partir. Il me raccompagne et sur le seuil de la porte, il me dit « Mais rassure-moi, on a échangé nos numéros. » Et donc moi, en fait, je sais qu'on n'a pas échangé nos numéros. Je suis déjà dans un sentiment de quasi-panique en disant que non. Mais donc je lui dis « Ah non, peut-être pas sûr. » Bon, bref. Donc on échange nos numéros. Et voilà, je pars travailler. J'arrive au bureau avec donc mes bagages. Et je suis complètement décalée, en fait. J'ai l'impression que les gens ont une vie normale et puis que moi, je viens de vivre un truc totalement extraordinaire. Et en plus, ils sont, voilà, personne n'est au courant de ce truc extraordinaire qui pourtant s'est produit, quoi. Et le soir, je lui envoie un dernier message en allant me coucher en lui disant à Slate, c'est pas nos ruptures qu'on devrait écrire, c'est notre rencontre. Donc, on s'envoie des messages la journée en se disant c'est incroyable, on est quand même encore beaucoup dans ce sentiment de c'est incroyable. Quelques jours passent et finalement, on se revoit une fois. Quand je l'ai retrouvé, moi, j'étais déjà un peu surprise parce que c'est un peu moi qui lui ai dit genre, bon, bah là, on se revoit parce qu'il m'écrivait beaucoup, mais voilà. Et en fait, quand je suis arrivée, il m'a fait la bise directe. Donc, je me suis dit, ah ouais, d'accord, on est vraiment, vraiment redevenus potes, quoi. C'est un peu une douche froide. Donc, j'ai instantanément mal au bide, mais bon, il ne faut pas que ça se voit. Mais après, au bout d'une demi-heure, comme on a recommencé à se parler, comme on s'est parlé dans le train, bah, en fait, tout est gommé. Et d'ailleurs, il me dit, je suis vraiment pas déçue d'être venue. Et moi, j'ai envie de lui dire, mais en fait, parce qu'une seconde, tu t'es posé la question de savoir si tu pouvais être déçue. Enfin... On repasse une nuit ensemble, qui est une nuit intense et belle, mais bon, évidemment, différente de la première qui était inédite et surprenante, mais une très belle nuit, voilà. Donc, quand il s'en va, après notre deuxième nuit, qui était également une nuit vraiment hyper intense émotionnellement et puis hyper longue aussi, parce qu'on s'est retrouvés quand même à 19h et... on est rentré chez moi à 7h du matin et on est resté ensemble jusqu'à 16h. Donc, on passe quand même beaucoup de temps ensemble. On écoute de la musique, enlacée dans le lit. Voilà, pour moi, c'est très intense. Mais quand il s'en va, je sais instantanément que je ne vais pas le revoir, en fait. Je le sens et il ne me dit absolument pas ça. Il me dit que les deux nuits qu'on a passées, c'était vraiment génial. Que, voilà, je me rappelle, il me dit c'est un bon point. Je trouve l'expression un peu étrange. Et donc après ça, je sais je le sens en fait, je sens qu'il va plus rien se passer, en tout cas pendant un long moment. Donc il m'écrit, il continue à m'écrire en fait, il m'écrit pas mal, mais il me repropose pas de me voir. Et en fait, il recrée pas l'occasion, pour qu'on se revoie. Et puis moi, en fait, assez vite, ça me lasse parce que j'ai pas envie d'avoir une relation SMS, parce que je trouve ça hyper dommage, en fait. Je trouve que notre rencontre avec c'est exceptionnel, que la nuit qu'on a passée ensuite l'a été également. Et du coup, je trouve ça, ouais, je suis déçue. Je me demande aussi si finalement ce moment il a été presque un peu je le revisite en fait. Je me dis est-ce que je l'ai survécu, est-ce que je l'ai et en même temps lui il dit tout le temps, il continue à dire dans ses messages que non quoi, que c'est vraiment voilà que ça va. C'est peut-être il dit que c'est un problème d'organisation. J'y crois pas du tout, mais et voilà et c'est vrai que j'ai un ami qui disait on dit pas merde à la vie et moi je trouve qu'en fait ne rien faire de cette rencontre. C'est un peu dire, finalement, c'est un peu dire merde à la vie, parce que je pense qu'elle aurait pu donner une relation exceptionnelle. Avec la rencontre qu'on a vécue, je n'aurais pas pu imaginer une suite comme ça. Même si pour autant, pendant tout ce moment-là, je me dis, quelque part, ça n'aboutira pas à une relation. C'est comme si c'était peut-être trop, en fait. Et peut-être que les relations qui fonctionnent dans la vie, c'est des relations qui commencent... peut-être normalement, pour s'ancrer dans un quotidien et que cette irréalité, finalement, elle nous a sublimés, mais elle nous a aussi un peu tués.
Cet épisode de Transfert a été réalisé par Iris Ouedraogo, la musique est de Maxime Daoud et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Merci à Maureen Wilson et Adélie Pojman-Pontet pour leur aide à la production. Je suis Charlotte Pudlowski et Transfert est produit par Louis Media pour Slate.fr. Et en cette fin d'année, je voulais juste prendre la peine de vous remercier pour ces si gentils messages qui nous parviennent souvent, vos commentaires, parfois exigeants, mais toujours intéressants. Et comme il fait froid et gris, et que c'est cette période de l'année où tout le monde s'épuise, je vous souhaite aussi de vous reposer, de lire des livres, de regarder le spectacle Nanette sur Netflix, qui est la plus belle chose que j'ai vue et entendue cette année. Et je vous souhaite de prendre soin de vous. À très vite.
C'est encore Kate Evan d'Audible. Cette écoute vous a plu? Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.